Chapitre 30. Un coq trop bavard. Adrien a passé une mauvaise nuit. Il leur en voudrait presque d'avoir mis au jour cette cavité. Ce matin, en se réveillant, il est à deux doigts de vouloir tout reboucher, recouvrir la zone d'un tas de branchages et qu'on n'en parle plus. Capucine le raisonne. Il ne peut pas agir ainsi en pleine conscience. Elle se persuade ensuite que cet événement majeur fera un peu diversion. Ils se prennent longuement dans les bras, puis Adrien se lève et se penche en appui sur le rebord de la fenêtre ouverte pour observer les animaux déjà en activité. Sa silhouette nue dessinée dans le contre-jour. Capucine l'aime toujours autant. S'ils n'étaient pas si soucieux l'un et l'autre, elle l'attirerait contre elle. Elle ferme les yeux et espère des lendemains qui chantent. Adrien prend son petit déjeuner en lisant le journal, puis se résigne à composer le 17. Rémi est mutique depuis la veille, nerveux à l'idée que des gendarmes envahissent les lieux, posent des questions, enquêtent sur le passé des témoins, sous prétexte que ceux-ci ont exhumé des éléments qui pourraient ressembler à des ossements. Il s'est levé tôt, n'a pris qu'un café avant de passer un moment avec les chevaux. Au lever du soleil, dans la fraîcheur du matin, les taons et les mouches se tiennent encore à distance des écuries. Et pourtant, Stevia est agitée. Elle tourne dans le box, bouscule Rémi qui essaie d'approcher doucement la main pour la caresser. Il cherche partout sur son corps si quelque chose peut la faire souffrir, soulève ses sabots, qu'elle veut bien lui présenter malgré tout. Les juments ont à boire et à manger. Dubitatif, il finit par s'éloigner et part s'enfermer dans la cabane. Le véhicule de gendarmerie arrive dans la matinée en toute discrétion. L'adjudant Thierry n'aime pas jouer les cow-boys. Il préfère la simplicité qui permet parfois la surprise. Garé sur le parking à l'arrière de la maison, il sort de la voiture et inspecte les lieux tout autour de lui. Une forêt dense, une petite route de campagne, quelques habitations au loin, l'isolement de celle devant lui. Un vieux est assis sur un banc en amont de la ferme. Il s'observe. Ambiance de western, quand même. Il apprécie généralement la présence des anciens sur les scènes où il est appelé, souvent les meilleurs témoins. Tout dépend de leur vivacité d'esprit. Celui-ci lui semble âgé, mais en bon état général. Il note. Il remarque un chien qui patiente, assis derrière une barre en bois. Silencieux, il balaie l'herbe sèche de sa queue enjouée. Pour une fois que son uniforme ne déclenche pas une avalanche d'aboiements agressifs. Il note aussi. Adrien se dirige vers lui, s'apprête à ouvrir le portail. « Vous êtes sûr de votre chien ?» s'inquiète quand même l'adjudant. « Certain, il est content de retrouver des uniformes. » Bloom jaillit, court vers le gendarme et s'assoit à ses pieds en le regardant droit dans les yeux, joyeux. « En effet !» Adrien Petit, j'étais maître chien, on a pris notre retraite il y a 2 ans. Il tend la main par réflexe, puis la retire. Adjudant Thierry, quelle catégorie?
Explosif.
Il s'ennuie pas trop? Ici? Répond Adrien en souriant. Il propose un café, même en confiance, le gradé refuse. Son collègue soupire, lui qui a du mal à émerger le matin. Capucine les a rejoints et se présente. Où se trouve la découverte?
Un peu plus loin dans la forêt, 300 mètres à vol d'oiseau.
On y accède par la route?
Oui.
Nous allons approcher le véhicule. Vous me montrez le chemin? Bloom trottine à côté de son maître. Son collègue au volant, Thierry, observe les alentours, admire la vue. L'endroit est beau, perdu, mais beau. Il mesure la chance qu'ont ces gens de vivre ici, en lisière de forêt, protégée de la chaleur. Il rêve d'une vie au grand air, loin de sa caserne vétuste que les autorités n'ont pas encore pris le temps d'isoler et qui, en ce début juillet, présente des températures avoisinant les 40 degrés malgré les courants d'air. Il rêve de soirées où il pourrait suivre une émission ou une série sans entendre la télévision des voisins. D'expérience, il sait aussi que ces endroits isolés sont propices à des affaires macabres. Peu de passages, peu de témoins. Assise sur le tas de terre, Karine attend, perdue dans ses pensées. En entendant le moteur, elle se relève, chasse la terre de ses fesses, remet ses cheveux en ordre, vérifie le décolleté de son t-shirt. « C'est vous qui avez trouvé ce qui semble être un os ? Oui. Grand, longiligne, rasé de près, cheveux très courts. L'adjudant parle calmement, sans donner l'impression d'être débordé malgré les dizaines de dossiers en cours. Son regard suspicieux pourrait faire naître en n'importe quel innocent un sentiment de culpabilité. En silence, il observe les lieux, prend quelques photos, note chaque détail dans un carnet. Récemment, il a suivi une formation donnée par ses collègues de la cellule d'identification criminelle. Il sait à quel point son rôle, à lui, premier maillon de la chaîne d'enquête, est important. Il ne s'agit pas de polluer encore plus la scène, de déplacer des indices, de piétiner des pièces à conviction. Sinon, il risque d'en prendre pour son grade. Il demande à son collègue de baliser une zone de sécurité. Invite Karine à en sortir. Sur ordre de son maître, Blum reste en retrait. Le gendarme accepte l'aide d'Adrien pour dégager la végétation. Ce dernier lui explique le déroulé des faits. La préparation du terrain pour les chèvres, les quelques marches enfouies dans la terre, l'envie de savoir ce vers quoi elle mène. Thierry se retourne vers Karine pour voir les photos prises avec son téléphone. Nous allons devoir sécuriser les lieux et faire appel à un TIC pour la poursuite des investigations. Un technicien en identification criminelle. Il va procéder au relevé nécessaire. Pour ma part, j'ai besoin de savoir qui était là au moment de la découverte et qui a évolué dans cet espace. Vous n'avez rien constaté de suspect ces derniers temps ?
Rien, répond Adrien. Manifestement, ce trou est bouché depuis fort longtemps. Il était plein de terre et couvert de branchages en décomposition.
Nous ne pouvons écarter aucune piste en l'état actuel des choses. Il faut toujours se méfier des scénarios qui semblent évidents. Ce sont les plus tordus.
L'adjudant s'éloigne en sortant son téléphone de la poche de son pantalon.
Clémence ne tient pas en place depuis que les hommes en uniforme sont arrivés. Elle a attendu qu'ils repartent vers le lieu des fouilles pour sortir de la grange et rejoindre les chiots. Accalé Ploupi contre elle et le caresse sans s'arrêter. Capucine, venue les nourrir et vérifier que tout était en ordre, a sursauté en la voyant recroquevillée dans un coin de la pièce. Elle s'assoit à ses côtés.
Tu n'aimes pas les gendarmes, n'est-ce pas ?
Clémence fait non de la tête, tout en la baissant.
Tu veux me dire pourquoi ?
Ils t'ont pas fait de mal, rassure-moi. Autre non de la tête.
Ils te font peur ?
Non,
répond-elle enfin d'une toute petite voix.
Ils te rappellent de mauvais souvenirs ?
L'adjudant Thierry revient quelques instants plus tard en direction du chantier, manifestement satisfait. Il arrivera en fin de matinée. En attendant, je vais procéder à l'interrogatoire des témoins. Plus personne ne doit accéder à la zone protégée.
Encore moins des chèvres, j'imagine, demande Adrien, dépité.
Encore moins.
Pendant combien de temps ?
Tout dépend de ce que nous trouverons. L'histoire de quelques jours maximum, je pense.
Si vous faites du fromage, le TIC en question raffole de la tome de chèvre.
Vous connaissez bien les goûts de vos collègues. Pour la tome, il faudra attendre un peu.
Les enquêtes sont parfois longues.
Accompagné d'Adrien, Thierry se dirige d'un pas décidé vers la maison. Sur la route, Blum déambule autour des deux hommes. Karine, contrariée, les suit à 10 mètres en arrière. En un regard, elle s'est sentie suspecte. Ils se sont attablés sous le pommier, l'endroit le plus frais en cette fin de matinée déjà chaude. Capucine et Adrien sont interrogés les premiers. Ils leur demandent les documents du cadastre, les références de la parcelle. S'interrompt à chaque cri du coq qui voit d'un mauvais œil ce nouvel intrus. Impossible de s'entendre quand il chante. Au 8e cri, Thierry soupire.
« Il va se calmer », le rassure Adrien.
« Il ne vous connaît pas. »
Il monte plus la garde que le chien.
Le gendarme écrit dans son carnet. Une énorme feuille jaune vient de tomber entre ses mains. Il la repousse vers le bord de la table.
Déjà l'automne ?
La sécheresse. Les végétaux souffrent. Les pommes aussi sont en train de tomber avant de mûrir.
Le lieutenant lève la tête pour s'assurer qu'il n'est pas en dessous de l'une d'elles.
Ont-ils connu l'ancien propriétaire ?
Non. Il avait disparu des années auparavant, sans descendance.
Disparu ? Quand nous avons acheté la maison, nous avons trouvé une lettre sur le vestelier, sous une épaisse couche de poussière. Elle disait « Adrien attend la fin du cri ». Vous n'avez jamais envie de le cuisiner au vin ? S'il n'était pas là, nous n'aurions pas de poussin. Donc la lettre disait qu'il avait besoin de quitter les lieux depuis la mort de sa fille pour se changer les idées, qu'il reviendrait. J'imagine qu'il n'est jamais réapparu parce que c'est la mairie qui nous a vendu l'endroit. Vous avez encore cette lettre ? Capucine monte au grenier pour essayer de la retrouver. Elle espère qu'il ne fouillera pas dans le registre des autorités sanitaires. En redescendant, elle en profite pour passer par la chaufferie. Clémence n'y est plus. La petite se déplace comme le vent. Capucine ignore où elle est partie se cacher. À son retour, elle tend la lettre au gendarme qui lui propose de la glisser directement dans l'enveloppe en papier Kraft.
Vous croyez qu'elle a une importance ?
Il ne faut rien écarter tant qu'on ignore tout de ces ossements. Ils ne sont peut-être même pas d'origine humaine. Dans la forêt, on trouve souvent des restes d'animaux. Mais dans le doute... Puis, il est question des voisins, d'éventuels autres témoins. Qui aurait pu constater des mouvements suspects ? Le vieux, sur son banc, est évoqué, ainsi que Paul et Jeannot, qui se promènent très souvent. Avant la fin de leur entretien, Capucine lui demande, dans la mesure du possible, d'épargner Clémence, sensible et fragile, qui sort d'une hospitalisation longue. « Je serai vigilant. Vous voulez bien lui demander de venir ?»«
Je pourrais rester avec elle. »«
Elle est majeure ?»«
À peine. »
Il accepte. Capucine la retrouve en train de crocheter frénétiquement au bord de l'étang, dans ce petit coin qu'elle a fait sien à l'abri de tout, derrière la végétation. La démarche agitée et le cœur battant, elle suit Capucine. Elle se plie à l'exercice, sa pelote dans la main qu'elle triture sans fin, qu'elle écrase de ses doigts maigres. Elle n'a rien à dire, rien vu, rien entendu, n'a pas participé aux fouilles, elle préfère peindre ou crocheter. Oui, les autres sont gentils, il ne s'est rien passé depuis qu'ils sont là. Non, elle n'a rien à ajouter. Elle repart comme une petite souris, son ouvrage dans la main, sans jeter un regard à Karine qui, assise sur le perron, attend son tour. Clémence entre dans la forêt et file vers la cabane. Rémi l'accueille, torse nu, la peau ruisselante. Ils t'ont pas trop embêté ?
Non, ça va. De toute façon, je ne sais rien. Et toi ?
Je suis pas encore passé.
T'as peur ?
Il lui propose d'entrer et ajoute qu'il faudra un jour qu'elle lui apprenne le crochet. Il referme la porte et la regarde découvrir les lieux, étonnée.